ce matin. Je vous invite à prier. Père éternel, ce matin, nous voulons te rendre gloire et nous placer devant toi dans la confiance, Seigneur, que tu es un Dieu. Dirige-nous, dirige toutes choses, et que en toutes choses tu sois, Seigneur, et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que la parole de Dieu est infaillible? Croyez-vous que la parole de Dieu est infaillible? Oui? Non, je sais pas. Si, je sais. Ouais. Ouais. Ok. Moi, je le crois. Et je le crois, et ce croire que la parole de Dieu est infaillible me permet d'être dans la certitude que le jour que je mourrai, parce qu'un jour j'allais mourir, je serai dans la présence du Seigneur. C'est parce que je crois que la parole de Dieu est ineffable, infaillible, pardon, que j'ai l'espérance de la justice de Dieu. C'est aussi pour ça que j'ai la confiance, la certitude et l'espérance qu'un jour il n'y aura plus de larmes dans nos yeux. Voilà, j'y crois. J'espère que vous y croyez. Même si aujourd'hui on est dans une société qui essaye de nous faire croire que la parole de Dieu a été trafiquée. Et je ne vais pas rentrer dans les nuances sur cette thématique-là, parce que on est bien d'accord, je crois. Il y a certains textes bibliques qui peuvent donner à Dieu à des interprétations, mais ce n'est pas le texte en lui-même qui se trompe. Ou se tromperait. C'est plutôt nous. Dans la lecture, vous voyez, dans l'interprétation qui nous fait sens du texte. Mais c'est véritablement important de croire à la parole de Dieu. Donc, si j'ai bien compris, vous y croyez?
Oui.
Ok. C'est une donnée. C'est une donnée. C'est du factuel. Vous êtes sûr?
Oui.
Ouais.
Oui.
Parfait. Ok. Est-ce que j'ai le droit de vous tester? De vous mettre à l'épreuve par rapport à ça? Ah, là, vous savez pas, c'est là. Est-ce que vous avez déjà répondu? Oui. Donc, je vais vous inviter à regarder quelques photos que j'ai, quelques-uns parmi vous m'avaient fait parvenir et d'autres que j'ai ajoutées. Et voilà, vous verrez de quoi ça tourne, ça va tourner. Mais je prends déjà note de ceux qui ne m'ont pas envoyé les photos. Hein. Fred, tu peux envoyer la première photo? Waouh! Comment vous qualifierez cette photo, cet animal? J'avais posté hier un petit message très tôt le matin en disant envoyez-moi des photos ou des images, des animaux ou des insectes que vous trouvez beaux, que vous aimez, qui vous plaisent. Donc là, comment vous le qualifierez, cette photo? Comment? Ah, vous êtes terrible ce matin, allez-y. Bon, là, vous voyez, c'est dans les grilles de lecture, on peut dire des choses différentes. La prochaine photo, Fred, s'il te plaît. Ah, comme quoi c'est mignon, hein? C'est mignon. C'est beau, non? Oui, c'est beau. C'est beau, c'est mignon, parce que...
La lampe,
il y a l'animal ou les animaux. Mais il y a aussi le lien, vous voyez, il y a la main d'Emmanuel, je me permets. Ah, Océanie, voilà, je pensais que c'était Emmanuel, avec une petite carotte, voilà, ils sont tendres, ils sont mignons, c'est beau. Vous s'en convenez, c'est beau?
Oui.
Ouais, je ne sais pas, si vous ne pensez pas, vous avez le droit de le dire, hein, donc soyez, sentez-vous libre. Hein. La prochaine fête. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué se prononcer parce qu'on ne voit pas la tête du chat, du chaton, mais voilà, on va dire que c'est quand même c'est mignon, non? C'est bon?
Chapeau.
Voilà.
Chapeau.
Voilà. Une autre? Et ça, vous trouvez ça beau?
Non.
Non, j'ai entendu des noms, plusieurs noms. Alors c'est microscopique, hein, là c'est à l'échelle, c'est microscopique. Bon, la, prochaine. On va laisser passer. Et celle-ci, moi je trouve ce petit poisson particulièrement adorable. Vous en convenez avec moi? Je trouve qu'il est beau, hein. Ce sourire, vous voyez? Ce grand sourire. Non mais attendez, là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à vous suivre. Vous voyez pas la même chose que je vois? Mais c'est évident aussi. Bon, on va pas s'arrêter là.
Terrifiant.
La prochaine. Ah là. Là, j'ai entendu.
C'est beau.
C'est beau. Ouais. C'est bon. En plus, derrière, il y a une ombre hein, qui est projetée. La suivante. Et celle-ci? Ça, c'est un poisson des profondeurs les plus profondes de la mer. Le trou mignon, hein? Non? Bon, la prochaine. Bon, là, les couleurs, oui. Mais si on fait un zoom sur la tête, c'est vrai qu'il est un peu particulier. Hein. Ça, on a l'impression qu'il s'est tiré d'un film d'horreur, de science-fiction, même quelque chose créé par l'intelligence artificielle, vous voyez. La prochaine. Ça, je trouve la plus adorable, la plus belle, le plus beau animal, de la Terre. C'est le condor chilien. Là, je trouve que là, c'est l'exemple de la beauté ultime. Vous voyez, quelle beauté. Voilà, prochaine. Ah. Il y a l'animal. François, cette photo, c'est l'intelligence artificielle ou c'est une vraie photo?
C'est pas l'intelligence.
Ah. Non, c'est l'intelligence humaine qui a su capturer.
Sur la crête des mises, si vous voulez.
Ah. Vous voyez, il y a des belles choses. Et là, je reste dans les animaux, les insectes. Il y a la nature, il y a plein d'autres choses. Continuez. Moi, ma fille m'a dit, je trouve qu'il est particulièrement beau cet animal. Voilà. Mais vous savez, il n'est pas tiré d'un film de science-fiction. Hein. Il est comme ça. Il a été choisi il y a 2 ans, l'animal le plus laid, le plus moche sur la Terre. C'est vrai que je le trouve assez mignon, vous voyez. Donc, voilà, je pense qu'on va... Il y a encore une autre folle. Ça, c'est un requin des profondeurs. Pareil, particulièrement beau. Bon, tu peux finir, Fred, merci. Vous me direz, mais bon, il est où le test? Vous voyez là, il y avait quand même. On n'était pas tous d'accord. Hein. D'autres, certains ont ouvertement exprimé, c'était pas beau. Hein. Je vais vous lire un texte juste inversé. C'est celui de Genèse 1, verset 25, qui dit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Dieu vit que cela était bon. Et vous savez, dans le mot hébreu utilisé pour bon veut dire beau, une bonne chose, quelque chose de plaisant, quelque chose de bien fait, quelque chose de sublime. Et c'est là que voilà, je vois que certains parmi vous, peut-être que vous ne croyez pas vraiment à l'Écriture. Parce que l'Écriture dit que tous ces animaux-là sont beaux. Beaux au sens biblique. Bien évidemment. Là où je veux en arriver, c'est à qu'on réfléchisse à cette question de notre regard, de la vie, de la société, même de nous-mêmes, et avant tout nous-mêmes. Parce qu'on est conditionné par nos schémas de pensée, par notre vécu. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous partager que, vous savez, dans mon enfance, j'ai été l'objet des moqueries de la part d'autres enfants. aujourd'hui on dirait du harcèlement, à cause d'un défaut physique que j'ai. Je ne sais pas si vous l'avez repéré depuis que vous me connaissez, mais en fait c'est cette petite oreille. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais elle est différente de celle-ci parce que celle-ci elle est finie. Elle a été finie, et elle est ronde, courte. Et celle-ci non. Donc, quand j'étais enfant, on me comparait, vous savez, au célèbre docteur Spock. Je ne sais pas si vous avez connu cette série télévisée américaine de Star Trek. L'homme aux oreilles pointues. Voilà. Vous voyez le personnage. Hein. Donc on se moquait de moi par cette question d'apparence physique. Bon, aujourd'hui, effectivement, ça ne me fait rien. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'étais enfant, c'était quand même compliqué. Heureusement, je savais que quand je rentrais chez moi, après le cours, parce que tout ça avait lieu notamment au collège, à l'école, je savais que quand je rentrais chez moi, j'allais trouver ma mère les bras grands ouverts, que me chuchotait à l'oreille, celle-ci évidemment, mais mon Tonito, parce que c'était le surnom qu'elle me donnait à l'époque, mais tu es le plus beau enfant de la Terre, tu es le plus beau de l'univers. Cela me rassurait. Cela me reconfortait. Elle m'aimait, oui. Je vous dirais oui, elle t'aimait, clairement. Plus grand, j'ai compris qu'elle disait aussi la même chose à mon frère, Claudio. Et du coup, ça m'a un petit peu dérangé, cette histoire. Parce que je me suis dit, alors c'est pas moi le plus beau de l'univers. Encore plus grand, j'ai compris que c'était aussi vrai pour mon frère que pour moi, qui est ma mère, elle ne mentait pas. Ni mes parents, par ailleurs. C'est comme l'amour de Dieu pour chacun de nous. Un amour impérissable, inaccessible, le même pour tous. Un amour qui n'est pas en concurrence. Heureusement pour moi, j'ai bien grandi en équilibre avec moi-même, sans avoir eu des impacts significatifs dans ma vie d'adulte. Mais ce n'est pas toujours forcément le cas. Et croyez-moi que dans le cas de mon ministère d'aumônier auprès des personnes malades, en fin de vie notamment, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, cette question, elle revient toujours, je fais surface. Comment est-ce que nous avons été marqués dans notre enfance? Ce n'est pas forcément le cas de tous, de pouvoir grandir sans traîner, excusez-moi le mot, trop de fardeau dans nos vies. D'ailleurs, tout à l'heure, François il a commencé sa présidence en citant un verset qui avait été cité le culte précédent. Devenir à Dieu, à la croix, et déposer nos fardeaux. Et qui dit fardeau, on dit pas seulement péché, parce qu'il est question des péchés, mais il est question aussi de nos souffrances, de nos maladies, de nos vécus, de toutes ces choses qui, parfois, nous traînons, bien évidemment à différents degrés. Et vous savez, pour ça, j'ai juste une image à vous partager de quelque chose qui est réel, que j'ai vécu. J'avais 25 ans, c'était au Chili, on est parti avec mon église dans une tournée missionnaire dans le sud du Chili. Et j'avais 25 ans, je conduisais un pick-up, vous savez, une camionnette, on dit, ouverte derrière. J'étais avec quelqu'un d'autre à mon côté et tout à coup je vois dans les champs un homme qui marchait sur le bord de la route avec un grand sac de patates, comme ça. Il marchait doucement. Donc nous on s'est arrêté juste à côté et on lui a dit bien sûr, je suis bien, hé amigo, sois, c'est monté. Puis évidemment. Bon, et du coup, nous, on était là avec mon copain et on sent le mouvement à l'intérieur de la pick-up et on continue. Et juste quelques mètres plus loin, tout à coup, je regarde par le rétroviseur. Et vous savez ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté? La camionnette en roulant. Lui, il était dans la camionnette avec son sac de patates. Comme ça. Et que l'autre main, il se tenait d'une barre qu'il y avait dans la camionnette derrière, comme ça. Et vous voyez, parfois, ça nous arrive aussi de se dire qu'on vient à la croix, même en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Et ressortir parfois avec nos fardeaux. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste une réalité de la vie humaine. Je disais tout à l'heure que je constate dans mon quotidien d'aumônier auprès des personnes en fin de vie que la vie n'a pas toujours été juste avec tous. J'entends souvent chez ces personnes des sentiments de regret. Oui, des regrets d'une vie mal vécue ou vécue non pas comment ils auraient souhaité véritablement pouvoir la vivre. Certains vont se confier à moi, ils vont me dire ah, j'aurais dû aimer plus. J'aurais dû privilégier passer plus de temps avec mes proches. J'aurais dû avoir le courage de oser faire ceci ou faire cela. J'aurais dû. Mais le constat, c'est que je ne suis pas arrivé. Et c'est précisément dans cette idée-là que je vous propose de cheminer un petit peu ce matin ensemble. Bien évidemment, et je tiens à le préciser dès maintenant, qu'en Jésus-Christ, il n'est pas question de fatalité. Mais il est vrai que dans notre vie chrétienne, parfois, même quand on vient souvent à l'église, ou toujours, on participe à toutes les activités de la communauté, on lit la Bible, on prie, on a du mal à se débarrasser de certaines choses qui font poids dans nos vies. Et bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, il est question des fausses idées, des idées fausses que nous savons de certaines choses, de certaines réalités, même de nous-mêmes. Bien évidemment que ce constat, celui des personnes qui me partagent ça, comme celui que je veux vous évoquer et lire tout de suite, c'est un constat, je vous le dis en avance, plutôt triste, mais ça part d'une réalité qui est dure, mais qui est bien réelle et qui est là, et qu'il faut, me semble-t-il, prendre en compte, même nous en tant que chrétiens. Quelqu'un l'autre jour m'a dit, vous savez, un monsieur de 103 ans, hospitalisé actuellement à l'hôpital d'Annecy et qui du coup a décidé d'aller faire la fin de sa vie en Suisse, il m'a demandé l'accompagner. Vous savez, m'a dit, j'ai eu une enfance difficile qui m'a marqué. Une vie dont je n'ai pas pu faire le choix de vie que j'aurais souhaité faire. C'est comme ça. C'est tout simplement comme ça, mais en même temps, je constate que cela me rend triste. Aujourd'hui, à mes 103 ans, combien même j'ai quand même réussi à avoir, me semble-t-il, une famille, éduquer mes enfants. Et cela m'amène à poser une question, à me poser une question. Qu'est-ce qu'une vie, même pour nous, une vie réussie, une vie heureuse, une vie satisfaite? Quels seraient les critères pour définir une vie réussie? L'argent, les biens. J'ai envie de dire, en tant que chrétien, une vie selon Dieu. Une vie vécue selon les projets des bonheurs que Dieu a préparés pour chacun de nous, pour chacune de nous. J'ai aussi envie de dire que vivre une vie selon Dieu bannit donc les regrets. Une vie vécue selon Dieu ne veut pas dire forcément, je tiens à le préciser, une vie sans obstacle, aux difficultés. Je ne suis absolument pas dans la théologie de la prospérité qui veut nous faire croire, fausser, oui, des choses, qu'avec Dieu, on ne connaîtra jamais la souffrance. Une vie selon Dieu veut dire que quoi qu'il en soit, quoi qu'il y ait été, de notre parcours de vie, de notre traversée, notre Dieu nous aime. Avec un amour, j'insiste, immarcessible, inaltérable, impérissable, qui nous accompagnera jusqu'à dans l'éternité. Deutéronome 32 nous dit, et c'est valable aussi pour nous, l'Église, le peuple de Dieu, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyantes hurlements. Il a entouré, il en a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Voilà. soin de nous. Je disais tout à l'heure que nous aussi nous sommes concernés parce que nous luttons contre des fardeaux qui nous empêchent d'avancer ou de vivre pleinement dans l'amour, la paix et dans la joie de Dieu. C'est comme essayer de nager à contre-courant ou naviguer à contre-courant. C'est fatigant. Et pour ça, notre ennemi, le malin, le diable, notre ennemi, il est fort. Il est un spécialiste. Lui qui est assassin et mensonger. Satan vaincu à la croix n'est pas encore anéanti, mais il le sera bientôt, pleinement. En attendant, il déploie ses ruses pour nuire autant que faire se peut aux hommes, femmes, aux intérêts de Christ, à l'Église, nous, les enfants de Dieu. Et pour cela, il a toutes sortes de ruses. Il essaye de se faire même passer habilement en ange de lumière. Pour nous tromper, pour essayer de nous manipuler, pour nous accuser devant Dieu. T'as vu Pedro ce qu'il a fait là, t'as vu ceci, t'as vu cela. Pour nous détourner avec le mensonge. Oh Pedro, regarde-toi, tu ne vois rien. De toute façon, tu as toujours été un inutile. C'est juste un exemple parmi d'autres. Lui, le roi de l'accusation et le découragement. Moi, à un moment de ma vie, j'ai cru à ces mensonges. Plus, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais j'ai cru. C'est bien pour ça que Paul nous rappelle en Romains 12, 2, la nécessité de effectivement nous laisser transformer ou métamorphoser par le renouvellement de nos systèmes de pensée, de notre intelligence, avant que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Et j'ajouterai, et pouvoir contraire les ruses du diable. Une transformation qui s'opère ici. S'opère ici. Là, je vais vous inviter à écouter le texte biblique de ce matin pour laisser que ce soit lui, le texte lui-même, qui nous parle. Et je terminerai par la suite avec quelques réflexions. Et j'en dis tout ce que je viens de dire, je vous invite à écouter et lire le texte biblique de Psaume 139 qui va être projeté.
Psaume 139 au chef de cœur de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que la somme en est grande, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi, je les hais d'une parfaite haine, et ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Je ne vais pas faire l'analyse, mais je vais décortiquer ce texte biblique. Mais il me semblait important de pouvoir le lire, l'écouter tout en entier. C'est un tout. Je vais plutôt faire un focus et quelques commentaires sur un des versets. Revenons au texte biblique et je m'arrête au verset 14. Quelle déclaration ! Je suis une créature si merveilleuse. Mais pour beaucoup d'entre nous, peut-être, cette phrase peut résonner comme une dissonance. Comment pouvons-nous nous sentir merveilleux quand nous sommes si conscients de nos faiblesses, de nos échecs, de nos péchés ? Attention, parce qu'il y a le malin qui l'a travaillé. Comment pouvons-nous nous sentir aimés quand la vie nous a parfois brisés ? Quand les relations humaines nous sont déçues, quand le miroir de notre âme nous renvoie une image que nous n'aimons pas. Et je ne parle pas que de l'aspect physique, bien évidemment. Je parle de cette beauté selon Dieu que j'ai évoquée tout à l'heure avec le mot Tob. Dieu a arrêté que tout était bon. Ce psaume nous parle de la valeur intrinsèque de l'être humain en tant que créature merveilleuse de Dieu, créée à son image, imago Dei, à différence des animaux. Parce que les animaux et nous avons été au bénéfice du souffle de vie de Dieu. En revanche, nous, on a été fait à l'image de Dieu. Cette valeur ne dépend pas des critères culturels, de nos échecs personnels ou même de notre apparence. C'est un don inaliénable de Dieu. Bien que le péché ait déformé notre capacité à refléter cette image, l'amour inconditionnel des dieux, prouvé par le sacrifice de Jésus, nous restaure et réaffirme notre valeur inestimable. La transformation s'opère par la foi, et j'ai envie de dire aussi dans la contemplation de la gloire de Dieu, une œuvre progressive du Saint-Esprit qui nous permet de nous voir comme Dieu nous voit. Qui nous permet de nous voir comme Dieu nous voit et de vivre quotidiennement cette vérité. Je fais exprès de ne pas mettre des diapos. Mais j'aurai rapidement quatre réflexions à vous partager. La première qui concerne la subjectivité de la beauté et l'origine de notre valeur. La perception donc de cette beauté est relative à notre culture, notre époque, nos liens affectifs. Notre regard est conditionné par cette grille de lecture. Cependant, notre valeur fondamentale vient du fait que Dieu, notre Créateur, nous considère comme des créatures merveilleuses. Vous le croyez ou pas ? Une perception divine qui transcende les jugements humains, nos perceptions et même nos expériences négatives, et notamment celles de l'enfance, et même en tant qu'adulte. Notre valeur fondamentale vient du regard que Dieu porte sur nous. En tant que ces créatures merveilleuses. Est-ce que Dieu s'est trompé quand il a dit que tout était bon ? Même ces créatures qui ne semblent pas être très, très agraciées. Combien plus fortes sont nous qui avons été créés à son image ? Oui, créés, deuxième point, créés à l'image des dieux. Les humains nous distinguons justement du fait d'avoir été créés à l'image des yeux, ce qui nous confère une dignité inaliénable. Le péché a abîmé cette image, brisant notre relation avec Dieu et nous empêchant de la refléter pleinement. Cette rupture de forme, sûrement aussi notre perception de nous-mêmes, nous amenant à douter de notre valeur et à nous voir à travers le prisme de nos erreurs ou de notre vécu. J'ai envie de vous dire, mes chers frères et sœurs, ce matin, que cette vérité fondamentale de notre existence, que cette vérité est fondamentale dans notre existence. Vous n'êtes pas un accident. Toute vie vaut être vécue. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous avez été créé par un Dieu souverain. Et vous, chacun de vous, moi, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Vous le croyez? Et quand je pose cette question, il n'y a pas de jugement derrière ma pensée. Parce qu'il y a toujours le malin qui essaye de nous faire croire tout le contraire. Qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut pas la peine. Et qu'il n'y a pas d'intérêt à croire à la parole de Dieu. Le péché ne supprime pas l'imago Dei, le fait d'être créé à l'image des dieux, mais nous rend incapables de la refléter pleinement. Mais ça, c'est autre chose. Et j'entends que ça peut déformer notre propre regard de nous-mêmes. L'image des dieux en nous se reflète dans nos capacités, entre autres, pas que, à raisonner, à créer, à aimer. Oui, à aimer et à être aimé, être digne d'être aimé et entrer en relation, notamment avec lui. Il ne s'agit pas non plus d'avoir un regard sur nous-mêmes démesuré. Parce qu'on sait et on croit que c'est l'œuvre des dieux en nous. Lorsque le psalmiste de ce que David s'écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », il ne parle pas d'une perfection sans défaut. Ça, je tiens à vous le dire parce que je peux le constater dans ma vie. Je ne suis pas la perfection incarnée, mais je crois que je suis une créature merveilleuse. Je disais tout à l'heure que le mot hébreu signifiant, entre autres, quelque chose de plaisant, de parfait, veut dire aussi quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire. Donc, sa complexité, sublicité. Chaque détail de votre être, de la complexité de qui vous êtes, de votre corps, oui, de votre corps, à la profondeur de votre âme ou de votre esprit, a été tissé. C'est écrit. C'est pas moi qui l'invente. A été tissé avec un soin infini par le Créateur lui-même. Vous êtes, mes chers frères et sœurs, mes amis, une œuvre d'art divine, un chef-d'œuvre unique. Alors si la Bible affirme cela avec tant de force, pourquoi parfois c'est tellement difficile d'y croire? Et dans cette question, il n'y a pas de jugement. Mais je reviens à cette réalité humaine de notre vécu, de notre passé, de notre traversée, de notre vie. Et de comment toutes les choses se jouent ici, dans notre tête. D'où que cette transformation, elle passe aussi par nous approcher de Dieu par sa parole. Bien le dit Jésus dans Jean 17, qu'il est question de connaître le Père et le connaître à travers lui. Parce que le projet de Dieu, c'est que nous soyons transformés à son image. Et je termine avec ce verset de 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à faire le choix, à faire le choix de croire la vérité de Dieu sur nous-mêmes, sur vous-même, sur toi mon frère, sur toi ma sœur. Plutôt que les mensonges du monde, le murmure de nos propres doutes. Je vous invite à choisir de contempler la gloire du Seigneur, de vous immerger dans sa parole, de vous rappeler de son amour. Considérez le sacrifice de Jésus à la croix comme une démonstration aussi de la valeur que Dieu vous apporte, que Dieu vous porte. Père éternel, ce matin, je veux te rendre grâce, te dire merci tout simplement. Parce que je crois à ta parole. Et même si parfois, tu peux avoir, Seigneur, des vérités bibliques qui peuvent être dures à intégrer dans nos vies, merci de me rappeler que tu es là pour m'accompagner. Et que cette parole, c'est une parole vivante, efficace, qui pénètre les profondeurs de l'être, pour nous amener, Seigneur, dans cette transformation vers l'image de Christ. À toi la gloire, Jésus-Christ.